Vous ne laissez pas perturber par les perturbateurs. Donc, pas de remarques, pas de questions, tout va bien. On passe au point suivant.
Limite de la compassion.
Ça veut dire quoi les limites de la compassion?
Jusqu'où il faut aller?
Si vous êtes compatissant, vous avez le souci du bien de l'autre. C'est clair? À Lunéville, nous avons accueilli quelqu'un, nous l'avons logé pendant des mois. Et à un moment, ce type qui n'avait pas sa chambre, nettoyait rien. Et on s'est dit, c'est cool pour lui, c'est un peu trop cool. Un peu trop cool. Et on lui a dit, tu dégages dans les 3 mois. Nous, l'Église, hein. On l'a parlé poliment, mais je vous le dis un peu rapidement, là.
Débat, s'il te plaît, quoi.
Parce que notre réflexion, c'était de dire, nous sommes centrés sur ce qui est utile pour lui. Et actuellement, notre aide n'est plus utile pour lui, ça le plante. Vous voyez ça? C'est pas une question limite, c'est une question, qu'est-ce qui est bon pour cette personne? Il a relativement bien compris, il a un peu la tête, mais après on l'a revu à l'église, il fréquente l'église et tout, il en démarche de foi et tout, hein. Et on a vraiment toutes les bonnes raisons de garder, si vous voulez. Mais on s'est dit, on n'est plus en train de l'aider. On a eu une grosse discussion entre nous au conseil d'église, c'est pas simple à prendre comme décision. Et finalement, il est parti. Il a trouvé rapidement un logement, il a trouvé facilement un logement, et il est parti. À 700 mètres. Et il est revenu à l'église joliment après. Donc, et on l'a expliqué. Ce qui est important, c'est d'expliquer. On a l'impression que on t'a vu là. Tu te laisses aller, ça va pas. On n'est pas là pour ça. Donc, pour moi, la limite, elle est toujours en train de chercher qu'est-ce qui est bon pour lui. Et pas en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter, nous, l'église de l'Univille, on a foutu un type dehors, quoi. Comment ça, comme ça, on est mort. Les choses, c'est très intéressant, ça, parce que ça permet de voir plus clair. Ce concept, le principe, pardon, qu'est-ce qui est bon pour la personne réellement bon, d'avoir la liberté de discerner et de sortir des trucs habituels, ça c'est très précieux. Voilà, ça c'est ma réponse. Je ne sais pas si c'est ça là. Ça pour moi, c'est... Après, il y a d'autres limites, évidemment, il y a la limite, je ne peux pas tout faire, ou je suis trop de personnes, j'essaie de trop aider en même temps, etc. Et c'est pas bon non plus. Mais aussi, c'est pas bon. Parce qu'au bout d'un moment, je me rends compte que je ne fais plus bien les choses. C'est tout bête. Si je veux suivre trop de personnes ou aider trop de personnes en même temps, je ne le fais plus bien. Et donc j'arrête, je limite pour le faire bien. Mais encore une fois, le critère, c'est le bien-être des personnes avec qui je suis. Et ce critère-là, je vous assure, il va vous aider dans toute une série de choses. Si je n'arrive pas à lâcher, c'est que je suis en train de me dire, ah, je le fais plutôt pour moi que pour lui. Ou pour eux, vous voyez? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à lâcher, il y a un truc qui n'est pas clair. Soit je suis assez malin pour me rendre compte moi-même, soit je me dis qu'il faut que j'en parle à quelqu'un parce que je viens d'interagir à quelqu'un. Ça, je conseille beaucoup de faire ça. Moi, j'ai une femme assistante sociale, donc c'est génial parce que j'ai énormément pris grâce à ça. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Hein, c'est pas... Et on a suivi ensemble des gens, des situations où on a réfléchi ensemble. Donc c'est évidemment extrêmement précieux et complètement irremplaçable. Donc voilà, c'est les. C'est important de toujours revenir à ça, ce que je fais vraiment pour l'autre. Et au début, on se rend compte, c'est pas tellement pour l'autre. Et là, il y a un processus de purification. Pour moi, vraiment, en tout cas, moi, je vis comme ça. Et je pense que c'est peut-être qu'on le vit tous comme ça, d'une manière ou d'une autre. Il y a un processus de purification, de motivation. Et ça peut être plus ou moins long, plus ou moins compliqué, mais ça, c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Après, le fait que c'est compliqué, c'est pas suffisant pour dire qu'il faut arrêter. C'est peut-être suffisant pour passer à quelqu'un d'autre, mais je veux dire, sans rapport, ça va être facile pour autant. Quoi. Ma première grande expérience, c'est d'avoir partagé une chambre avec un type qui était en posture alcoolique. Donc il avait arrêté, il était en posture. Je pense que dans les 3 mois ou 4 mois qu'on a passé dans la même chambre, il a dû s'enivrer 3 ou 4 fois. C'était pas triste, mais ensemble, on se battait pour qu'il s'en sorte. La personne a passé dans la même chambre, c'est pas autre chose. Hein. Mais c'était vraiment une expérience. Et j'ai appris parce que c'était compliqué. Si ça avait été facile comme tout, je n'aurais pas appris grand chose. Donc il faut aussi accepter ça. Il y a un cheminement qu'on fait, une croissance qu'on fait, grâce aux efforts qu'on fait pour surmonter la complication. Et encore une fois, ces efforts, on ne les fait pas forcément tout seul, hein. On peut les faire avec d'autres. Le gars qui est logé chez nous, il avait été envoyé par, par un service social chrétien qui s'appelle le Relais à Strasbourg. Je parle d'une histoire qui s'est passée en 1983-84. Hein. J'étais encore jeune, mais c'était vraiment une super expérience. Donc on travaillait en collaboration avec eux. Et si vraiment les choses devenaient ingérables pour nous, on pouvait facilement parler des éducateurs de la base. C'était aussi cadré, c'était pas n'importe quoi, ni n'importe comment. Encore une fois, et ça c'était vraiment une expérience utile. Après, il y a des choses où il y a des limites qui sont les nôtres parce que les gens ne sont pas gérables par nous. Hein. On trouve aussi des gens déstructurés psychologiquement, on ne sait pas comprendre. C'est aussi simple que ça, hein. On n'est pas compétent. Ils sont plus en mesure de réfléchir correctement. Et donc là, c'est se trouver avec qui on va se relayer. Et comment on fait, hein, si on prend ce genre de problématique. Quoi. Ça va comme réponse là, je ne sais pas si c'est quelqu'un pose la question. Ça c'est vraiment super. Hein. Qu'est-ce qui est bien pour elle pour lui?
Quand tu dis qu'il ne faut pas se laisser manger, se laisser bouffer.
Oui.
Ça rentre dans ce cadre-là.
Ça rentre dans le cadre où. Moi, je pars du principe que c'est jamais totalement par hasard qu'on se bouffait, et c'est quelque part parce qu'on a bien voulu. Et on a ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Tu vois? On se pourrit la vie, on n'a quelques bénéfices secondaires. On se dit de se dire, je suis vraiment quelqu'un de bien parce que je l'aime, quoi. Mais non, quand je pense comme ça, je me regarde dans le miroir, j'ai personne. C'est ce que je disais, c'est bizarre. Donc. Mais c'est une tentation, et puis à une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a d'autres préoccupations, mais ma génération, le fait de faire du social, c'était quelque chose, quoi. Enfin, c'était un autre truc. Aujourd'hui, il faut qu'on chante des cantines, on loue, ça meurt, les priorités ont un peu changé, semble-t-il, mais à l'époque, c'est vraiment très important. Et donc, avec quelques amis, on était bénévoles sur cette structure qui accueillait les gens, qui s'appelle le Relais à Strasbourg. Des bénévoles un jour par semaine, et puis on n'appelle pas non plus d'accueillir quelqu'un pour le contourner, pas qu'il soit tout seul dans sa piole, quoi, parce que c'est pas génial. Et voilà, c'était gratifiant, évidemment, parce que ça correspondait à une utopie, pas comme on dit, mais en même temps, il fallait voir clair sur. Parce qu'on passe aussi beaucoup de temps en diamant. C'est clair, on passe beaucoup de temps en diamant. Le gars a des demandes, le gars a des trucs, il dit non, ou pas comme ça en tout cas. Donc voilà, c'est aussi un travail où on peut avoir des conseils les uns des autres, ce côté éducatif de l'accompagnement. Mais bon, si on se laisse bouffer, c'est qu'on y trouve. Alors, sauf la première fois, on ne comprend rien à rien parce qu'on est jeune et que. Voilà, mais si on y reste, c'est qu'on trouve pour moi des bénéfices secondaires qui ne sont pas ça. Enfin, je crois vraiment ça, c'est ma conviction. C'est que de notre part, quelque chose n'est pas clair. Il faut discerner, il faut vérifier, il faut discuter avec quelqu'un. Alors peut-être aussi une vision de l'évangile où il faut mourir en soi-même, hein, ou des trucs mal compris et mal appliqués. Enfin, ça existe aussi dans nos églises. Mais c'est moi j'aime bien. Il y a deux frères qui disputent sur l'héritage. Et ils vont voir Jésus en disant Jésus aide-nous. Non, il dit. Dis à mon frère, partage avec moi. C'est pour ça que ça se passe. J'ai dit, c'est pas mon problème, votre affaire de fric, c'est pas mon problème. Il aurait pu répondre, hein, en disant, moi je réponds à tout. Je... Oui. Pas du tout. Quand vous lisez l'évangile, ça ne marche pas comme ça. Et donc c'est important de se laisser inspirer par Jésus. Moi, ça m'a vachement fait du bien. Je me dis, tiens, Jésus, il n'a pas fait, comment ça se fait? Il aurait pu faire une belle médiation entre ses deux frères. Mais... Et il fait gaffe avec le fric, voilà ce qu'il aura dit. Faites gaffe avec l'argent. Mais il n'est pas venu jouer le sauveur de la. Enfin, je veux dire, le complexe du sauveur, c'est aussi des choses qui vaut la peine de réfléchir, parce que parfois on l'a. Il y a différents petits trucs sur lesquels il faut qu'on part, qu'on voit clair, et ça, on a besoin de parler avec des gens qui sont plus compétents. Moi, je pense que c'est vraiment important, ça. Ou de lire, ou de je sais pas quoi. Ça, c'est une chose vraiment importante. Et si on veut le faire, c'est aussi important au moment de dire, alors, on le fait. Et on discerne à partir de ce qui est bien pour lui, et aussi de comment est-ce qu'on voit ce que Dieu nous demande. Quoi. Qu'est-ce que Dieu nous demande, quoi. Et il ne nous demande pas de sauver le monde, ça c'est clair. Il ne nous demande pas de sauver le monde. Ça c'est sûr, c'est sûr. Et faut qu'on soit au clair. Et qu'on lâche le fait qu'on ne peut pas tout faire, qu'on soit, qu'on assume l'impuissance de fond, au sein de laquelle on peut éventuellement faire des choses bonnes, si on s'y prend bien, et avec, en collaboration avec d'autres, et en ayant appris, mais on n'a pas de maîtrise, on n'a pas de... Ouais. Accompagner quelqu'un, c'est renoncer à savoir ce qu'on peut pour lui, quoi. Peut-être qu'en discutant avec lui, on peut poser des choses, mais c'est tout. Enfin, je vais aller un peu, ouais, je veux dire, on n'a pas le pouvoir. Au début, ça me stressait, mais non, je trouve ça. Voilà. D'autres questions ?
Alors, c'est peut-être une boutade, et puis c'est, mais je pense qu'il y a un côté qu'on n'a pas évoqué. Tout à l'heure, tu as dit aider l'autre à porter son souci. C'est pas aider l'autre à colporter son souci ?
Parce que.
Ben, je pense que des fois, tu nous as dit que pour dans certains cas, c'était bien d'avoir un groupe pour réfléchir à tout ça. Mais j'ai plutôt l'impression, dans l'expérience, qu'on parle beaucoup des soucis des autres sans les aider, quoi. Donc,
Oui, c'est bon, mais là, c'est pas pour aider, effectivement. Mais dans le groupe dont je parle, le diacre, ils sont soumis à une forme de secret professionnel. Après, on aime bien déboiser les uns sur les autres, c'est une maladie typique, et c'est une maladie spirituelle, c'est une maladie dont Jésus a parlé très clairement dans Matthieu 7, quand il a dit de ne pas juger les autres, et de regarder dans son œil que la paille dans l'œil du voisin. Jésus a été extrêmement clair là-dessus, et comment dire, bon, on quitte l'entraide là, mais
je ne sais pas justement. Parce que...
Il y a du plaisir à parler de ce qui ne va pas chez les autres. Ça empêche de parler de ses problèmes, donc ça va y aller à foutre. Et on se sent un peu moins nul quand on parle de son problème aussi. C'est pas génial comme manière de raisonner, mais inconsciemment ça fonctionne bien. Je peux le garantir. Et d'ailleurs, une des choses qui m'encourage à penser des choses comme ça, c'est que il y a toute une flopée de personnes qui parlent beaucoup plus des autres quand ils ne vont pas bien. Quand ils ne vont pas bien, mettre à tirer sur tout ce qui bouge et à relever tout ce qui ne va pas chez les uns et chez les autres. Quand ils vont bien, ils n'ont pas cette attitude-là. Donc il y a un problème psychologique autour de ça. Parce que consciemment ou pas, on n'a pas envie de voir ce qu'il y a dans notre œil, en tout cas pas de l'étudier de près, et donc on va plutôt regarder ce qui ne va pas chez les autres. Et si en plus on peut le faire en bande, c'est génial parce que ça fait durer trois fois plus longtemps. C'est quand même super ça, je veux dire. Ou 10 fois plus longtemps même, pas enfin, juste bon avant, et donc ça. Cette espèce de fuite d'être lucide sur nous et de travailler sur notre propre réalité, eh ben c'est plus facile de parler de la réalité de l'autre. Enfin, je dis réalité avec guillemets, hein, parce que c'est pas la réalité, c'est pas la vérité, c'est des choses qu'on se raconte. Donc là, pour moi, il y a une vraie maladie spirituelle. Hein. Jésus, il n'a pas parlé de tellement de choses, et de ça, il a parlé très clairement. Et je trouve ça, c'est vraiment très très utile. Quand je commence à renoncer à regarder ce qui ne va pas chez les autres pour m'occuper de moi, j'ai fait un grand pas, je suis bien sûr. J'ai fait un grand pas spirituel. Mais tant que je préfère regarder chez les autres. Enfin, je ne sais pas si ça te fait répondre à ta question ou tu voulais.
Si, j'aime bien que ce soit au moins évoqué dans la situation, parce que des fois, il y a des personnes qui pourraient donner l'illusion d'avoir.
Des fois, il y a des personnes qui pourraient donner l'illusion de vouloir s'occuper des autres. Mais en réalité, leur deal, c'est de faire ce que tu viens de dire, c'est d'en parler.
Il y a des tas de choses que j'ai fait avec des gens, personne n'a jamais su de même. Et si tu veux que tu le fasses sérieusement, ça vient presque tout seul. Je ne me suis pas dit, j'ai dit quand j'en parle, mais il y a des trucs qui se racontent, que j'entends, que je communique, quelque chose qui se passe entre nous, c'est juste pas possible pour moi de le raconter à quelqu'un d'autre. C'est juste pas possible. Sinon, je casse quelque chose de ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de bousiller mon propre travail. Si je commence à raconter à d'autres n'importe quoi et n'importe comment sur ce qui est en train de se passer. Et donc ça, c'est... Enfin, moi, ça, c'est très clair, ça. Hein. Alors, je sais que d'autres font autrement, ou ils ont des structures... parfois, je dis ça aussi, avec superviseurs et des machins, mais globalement, moi, dès le début, c'est tellement... Comment dire, accompagner quelqu'un ou essayer d'aider quelqu'un, c'est tellement mettre les pieds sur une terre sainte, comme disait un de mes amis, Je ne peux pas faire n'importe quoi, c'est quasi impossible. Sinon, tu es en train de profaner quelque chose. Je ne m'aperçois pourtant pas de profaner, hein, mais dans ce cas précis, c'est vraiment ce que je pense. Donc, profaner un truc, là. Et ça, on ne peut pas faire. Moi, je suis outré. Je suis outré. Parfois, je suis dans des groupes de discussion et j'écoute des gens parler. Et je suis outré d'entendre ce que les gens se racontent les uns sur les autres, c'est clair. Je trouve ça. Enfin, c'est quasi criminel, quoi. On exécute les gens comme ça en parlant les uns sur les autres, sans même se rendre compte, parce que c'est une culture, on discute, c'est épouvantable. Alors moi, j'ai pas grandi dans ce type de milieu, donc c'est que j'ai connu ça, puis je suis comme ça, mais j'ai découvert ça tardivement dans les églises évangéliques. Hein. Bon, c'est quelque chose dans nos clubs, dans notre association, mais j'étais rencontré. J'étais une femme dans une famille, à un repas, c'est vraiment super. 6 enfants, et puis il y en a un qui dit à un moment, puis il y a une mission passe, je doute. Puis il dit, bon, on va dire du mal de qui maintenant? Comme ça, on va pas de famille, vous voyez, bonjour l'ambiance. Parce que lui était en souffrance, c'était un jeune, hein. c'était pas dans les parents qui menaient là, et qui menaient la danse, il était en souffrance. Je comprends qu'il était en souffrance. Moi je n'étais vraiment pas raison non plus, quoi. Il était en souffrance d'entendre des choses se dire comme ça les uns aux autres. Moi, je lui prêtais de parler, hein. mais ça m'a beaucoup touché. C'est pas que moi, j'ai pas osé le dire, et puis j'étais pas de la famille, donc je ne suis pas dans le... Mais j'ai trouvé ça génial qu'il le dise, quoi. Génial. Mais là, on est très loin de la passion pour moi. Moi, il y a vraiment... C'est clair.
Moi, je voulais revenir sur... les émotions, accueillir les émotions de l'autre sans que les miennes polluent les émotions. Alors ça, pendant longtemps, j'ai essayé de mettre de côté les émotions qui montaient. Et depuis, je pense, quelques temps, je ne suis plus là-dedans, parce que je trouve nos émotions sur des histoires hyper lourdes, parfois sordides, elles sont là, elles montent. Et on ne sait pas trop quoi en faire, et on se dit faut les balayer, faut pas que ça interfère l'échange, l'accompagnement, enfin la discussion. Et j'essaie plutôt de dire elles sont là, et qu'est-ce que j'en fais, et de dire à l'autre ben ça me touche vraiment ce que vous partagez, ou et de le fait de le dire, ou parce que l'autre en est conscient aussi, et ben ça permet de voilà. Ça peut avoir un effet positif chez l'autre, parce que ce qu'il raconte, ben, effectivement, c'est violent, c'est, enfin, et du coup, je trouve d'être dans la logique d'effacer à tout prix nos émotions, on n'y arrive pas, mais d'en faire quelque chose avec, pour pouvoir effectivement continuer à être présent à l'autre. Quelque chose de cet ordre-là.
Ça, j'ai appris de manière tout à fait particulière dans ma formation à la médiation. C'est-à-dire, la médiation, les gens viennent, ils sont fâchés. Vous savez. Et donc, ils viennent bourrer d'émotions. Et avant de faire cette formation, comme les gens venaient comme ça, je leur expliquais par A plus B, par des raisonnements extrêmement sophistiqués, que c'est pas si grave, qu'il y a besoin de se fâcher, qu'il faut faire autrement, tout. Et ça marchait jamais. Et en médiation, on apprend, ça c'est extrêmement, et ça c'est une chose la plus géniale que j'ai appris, c'est que si tu ne passes pas par la case émotion, tu piétines, je suis à la fin de ta vie. À partir du moment où tu as deux types fâchés qui sont là, deux personnes fâchées, si tu ne dis pas à un moment, j'ai l'impression que vous êtes bien fâché, monsieur, vous êtes en colère. Hein. Il dit, ouais, je suis en colère. Du ouf, tu as l'impression que ça tombe, le voit qu'il passe en direct, c'est en train de tomber. Hein. Et après, tu peux passer à autre chose. Et il y en a seulement. Et l'autre aussi, je le fais. Et l'autonomisation, c'est important aussi. Je trouve que c'est vraiment important. On voit ça, par exemple, Corneille va aller chez un païen. Non, Pierre va aller chez un païen, s'appelle Corneille. Dieu lui a cassé les pieds avec une triple vision, à chaque fois, un truc qui lui a complètement retourné parce que il voit les animaux, la boîte titulée, mange-les, et Pierre, il dit non, jamais. Puis ça arrive trois fois, puis Pierre, la conclusion, c'est que Pierre, il rate la tête. Et puis, il y a quelqu'un qui a une voix qui lui dit, Saint-Esprit, je pensais, il dit, Il y a des gens qui vont venir, ils sont envoyés par un certain Corneille, tu dois les suivre, c'est moi qui les envoie, tout et tout. Ok ? Et donc Pierre va chez Corneille, et, je vais chercher le texte pour pas de bêtises, c'est extrêmement intéressant parce qu'il a besoin de nommer les choses. Et parce que je pense qu'il est très ému. Attendez, je vais y arriver. Il est un peu lent ce truc actuellement, mon ordinateur. Voilà, ça y est, c'est ouvert. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. Et il dit... À l'arrivée de Pierre, Corneille, qui était à sa rencontre, tombe à ses pieds, se prosterne, Pierre le relève en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis juste un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. D'accord ? Et Pierre dit « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui ? » Il est tellement flippé parce qu'il fait un truc qu'il n'aurait jamais imaginé faire qu'il a besoin de le dire. Parce qu'en le disant, il peut passer à la suite. C'est génial. Dans le texte, quand vous lisez les évangiles, quand vous lisez les récits comme ça, vous voyez la vie qui pulse, vous voyez les émotions qui sont là, et je trouve ça vraiment super. Et après, mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire qu'un homme qui est souillé ou impur. Bon, si Dieu te l'a dit, t'as pas besoin de le dire. Si, j'ai besoin de vous le dire parce que je suis remué par tout ce qui se passe. Quoi. Voilà, pour aller dans ton sens. Donc, il ne faut pas faire de refoulement. Et puis parfois, il faut s'arrêter et dire, waouh, attends, là tu me stresses, là, enfin, ou là tu me... j'ai besoin de 3 secondes pour me poser là, avec ce que tu m'as dit. C'est pas un problème si on le dit. Mais il n'a pas dit, oh, il n'est pas bon ce gars, on ne sait pas terrible. Il décroche pas du tout. Donc c'est important d'être soi-même, d'être dans ce truc.
Ça permet de continuer en fait.
Ça permet de continuer, absolument. Mmh. Il y a une espèce de je sais pas, comme ça, mais ça se dégonfle. Enfin voilà, ce dégonflement, et qui veut passer à la suite. Et en médiation, je suis toujours impressionné quand ça marche. Je suis toujours impressionné. D'un coup, les gens, ils calment, ils peuvent commencer à raisonner, à expliquer que deux sur les quatre. Avant, ils ne peuvent pas comprendre. Autre chose ?
Alors, le temps s'écoule, hein, il est moins le quart.
Ah.
Voilà. C'est cool. Ouais.
Le temps s'écoule, je n'ai pas besoin.
C'est un texte de La Fontaine, pardon. Je n'ai pas compris, voilà. Pascal,
est-ce qu'on peut finir ce moment?
Oui, justement. Je...
Daniel, tu voulais prier avec nous. On s'en clôt et on se remet devant le Seigneur pour ce qu'on entend l'une dans les autres.
Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Merci parce que nous découvrons tout à nouveau que Jésus est pour nous le modèle. Seigneur, aide-nous à sonder les Écritures, à nous en inspirer pour que nous puissions vivre avec ceux qui nous entourent, que nous puissions... donner de la compassion. Seigneur, donne-nous aussi la sagesse dont nous avons besoin. Et nous savons que c'est toi seul qui peux nous la donner dans les circonstances que nous vivons, dans nos relations proches, dans nos relations en Église, dans nos relations avec ceux qui nous entourent, dans notre voisinage. Seigneur, tu sais que je compte sur toi, nous comptons tous sur toi pour nous aider à vivre comme tu le demandes. Seigneur, ce soir, nous te remercions pour cette occasion que nous avons de partager. Seigneur, nous avons, comme chaque fois que nous nous réunissons, une pensée pour nos frères et sœurs dans toutes ces régions du monde où ils sont persécutés. Seigneur, nous te les recommandons et nous te remercions pour toutes ces associations qui leur viennent en aide et qui sont remplies de compassion pour toutes ces personnes. Seigneur, c'est bon de nous confier à toi ce soir et Seigneur, tu veux continuer à bénir Pascal dans ce ministère qu'il a, dans nos assemblées, dans sa propre assemblée. Et puis tu veux, Seigneur, être avec nous dans nos assemblées respectives, avec tous ceux qui les composent, ceux avec qui nous sommes en harmonie, ceux avec qui nous sommes en relation parfois difficile. Seigneur, donne-nous toute ta sagesse pour pouvoir vivre comme tu le demandes dans ces circonstances-là. C'est bon, Seigneur, de savoir que tu es notre Père et que grâce à Jésus, tu nous as fait intégrer ta famille. Vraiment, nous pouvons cet après-midi encore que te dire un grand merci. Et nous le faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Bon, quelques mots sur le projet Lorraine. Vous êtes au courant de ce que c'est le projet Lorraine ? Le projet de soutien aux églises de Lorraine dans la mission officielle. Tout le monde est au courant ? Voilà, je vous dis juste qu'il y a eu une réunion. Il y a eu une réunion le 2 juin avec quelques personnes de Lorraine qu'on a choisi. Le groupe d'accompagnement de Jean-Pierre, j'ai envie d'écouter les uns les autres, et plutôt pour voir si ça prenait au niveau de ceux qui étaient là. Donc il y avait plusieurs personnes de l'usine, Sonia, Florence, Linda, Olivier Martigues, il y avait Pierre-Nicolas, il y avait Pierre Ibaillère de Châtenois, il y avait Michrac de Lunéville, et donc ça nous a encouragés, donc on continue, et on voudrait nommer par rapport à ce projet, un comité de pilotage pour le prochain Lorraine avec des représentants de toutes les églises. Donc aussi, c'est une église qui n'est pas représentée ce jour-là. Donc, Toul, par exemple, n'avait pas de représentant dans ce comité de pilotage, puisque je vois les gens de Toul ici. Et Bacara non plus, et d'autres encore. Donc, on a prévu une réunion en novembre et on aimerait vraiment que tout le monde puisse participer à ça. Le but, c'est d'aider les églises de Lorraine dans la mission à différents niveaux. Un niveau formation, un niveau encouragement, mais de travailler aussi en fonction de ce que chaque église, dans son contexte précis, discerne qu'il doit faire. Donc c'est pas un projet qui vient d'en haut, mais c'est un encouragement. On s'est dit qu'il y a des choses qu'on pourrait faire ensemble dans ce cadre-là. C'est pour ça de réfléchir ensemble aussi à certains moments, mais aussi de prier les uns pour les autres, de s'encourager les uns les autres, pour voir comment on avance concrètement. Voilà. Donc, vous allez recevoir des invitations pour cela, ceux qui ont encore vu. Enfin, ceux qui étaient là, ils ont une date. Et la date a été déplacée, mais toutes les églises vont recevoir des invitations pour cette prochaine rencontre.
Et quelle date ?
Ce sera le 22 novembre. Et c'est novembre, c'est un mardi, en fin d'après-midi.
18h à midi.
18h réunion à 18h à midi, voilà. Nous aimerions, le but c'est d'aider les églises, voilà. D'aider les églises, s'encourager les uns les autres, de prier ensemble, etc. Et là, dans ce cadre-là, il y a des ressources. Les ressources. Il y a Jean-Pierre qui a 30% de son temps pour le MF dans le projet-là, mais il y a aussi les jeunes qui ont fait le programme. Il y a d'autres personnes de France Évangélisation, parce qu'on est en collaboration avec vous là-dessus. Et je ne sais pas, je pense à d'autres choses, Jean-Pierre, que j'aurais oublié, mais...
Non, mais c'est un de nos églises, je pense que aussi...
Il y a des gens qui sont de nos Jean-Pierre, il vendra, c'est très comme évangéliste, par exemple, pour le faire, ça sert. Donc, voilà, on y croit, c'est vraiment important. On pense qu'on a besoin de réfléchir à la mission, peut-être de se penser à la mission, de repenser la mission, parce qu'il y a des... Enfin, j'ai envie de dire, il y a des manières de penser qui évoluent au fil du temps, et ça vaut le coup aussi de se retrouver pour prier les uns pour les autres, prier ensemble, pour que Dieu nous aide par rapport à ça. Voilà, c'est l'info que je voulais passer. Des questions là-dessus ? Des remarques ? Merci de penser à ça, de prier pour ça. Nous sommes vraiment des témoins de la grâce de Dieu envers ceux qui ne connaissent pas et que nous aidions des personnes à rencontrer Jésus et à s'accrocher à lui. Voilà. C'est fini avec ça. La deuxième chose, vous savez qu'on organise des formations décentralisées pour être en cette église, et donc l'autre, une année sur deux, c'est pas aussi en Lorraine, et que suite à un certain sondage que j'ai fait à vos demandes, demandes des responsables, la plupart, sinon la quasi-totalité, a répondu en disant qu'ils préféraient que la formation change de mode, et que plutôt que d'avoir une soirée tous les mois, d'avoir une soirée, d'avoir une journée complète par trimestre. Donc ça c'est acquis. C'est acquis, on finalise les contacts avec les intervenants, parce que nous sommes des emplois de cube. Ça commence de toute façon en 2017. Hein. Et vous allez recevoir bientôt un courrier autour de pour cela. Je voudrais aussi profiter de ce changement de format pour que ces journées n'aient plus lieu forcément à tout le comme elles ont eu lieu, c'est tout le central. On peut faire plus d'équipements quand il s'agit d'une journée complète et quand il s'agit juste d'une soirée de 3 heures. Donc on va prendre d'autres lieux. Bon, cette année, comme on était déjà à Disney cette fois-ci, peut-être que l'une des trois prochaines ne sera pas à Disney nécessairement, mais qu'on va voir côté de Darnay, de Bar-le-Duc, enfin, Lille-Lille, Bar-le-Duc, enfin, on va voir. Tout ça, c'est encore des questions qui vous seront posées. Et à moins que vous me dites, franchement, je ne veux pas que ça passe chez nous, vous serez sollicité. Mais on aimerait bien pour que ce soit pas tout le même qui passe 5 km.
Je pense que si je suis sage, je pense que Ligny, notre président est là, Daniel est là, Ligny accueille volontiers. Hein, volontiers. Après, nous, on a un problème du local en ce moment.
En tout cas, si on fait.
Si on a le local, oui.
Si on fait une journée.
Oui, je suis d'accord. Vous êtes sûr.
Si on fait une journée.
Non, mais là, c'est janvier 2017. Hein,
c'est
janvier. C'est sûr. Non, il y aura une dans le premier trimestre.
Premier trimestre,
une dans le deuxième et une dans le quatrième. Donc vous avez largement quoi.
Voilà, donc après, dans la deuxième partie, oui, mais la première, c'est ce que tu veux dire.
Mais il faut vous mettre d'accord entre Barlet et Lini, parce qu'on va prendre. On ne va pas aller au point nécessairement. On va tourner un peu plus largement.
Ce sera un samedi.
Ce sera les samedis. Évidemment, oui, excusez-moi. Les samedis, ce sera les samedis. Donc, comme vous avez préféré cette ce format-là, je suppose que vous serez tous nombreux à y passer.